tire d'aile, une rubrique consacrée à l'écologie et plus spécialement à l'ornithologie. Cette rubrique, nous la devons à l'ornithologue Frédéric Mahler en partenariat avec la section Île-de-France de la Ligue pour la protection des oiseaux. Une belle collaboration donc entre la LPO et l'Alpha 10-13. Tous les mois, on découvre ensemble un peu plus le monde passionnant des oiseaux et le travail essentiel de la LPO. Et dans cette cinquième chronique, Frédéric Mahler nous parle à travers trois exemples de l'efficacité des actions menées par les militants naturalistes. Alors, écoutons tout de suite à Tire d'aile, saison 1, épisode 5, l'efficacité des actions en faveur de la protection de la nature, une chronique de Frédéric Mahler de la LPO Île-de-France pour l'Alpha 10-13.
Ce mois-ci, la LPO Île-de-France tient ses assises régionales. C'est l'occasion de faire avec ses 11 000 adhérents le point des actions menées en 2025 et de présenter ses grands axes pour 2026. À cette occasion, je voulais aborder une question qu'on est en droit de se poser. Est-ce que toutes ces actions en faveur de la protection de la nature sont efficaces? Les militants naturalistes ne sont-ils pas seulement des râleurs qui ne pensent qu'à embêter les braves gens? Pour y répondre, je vais utiliser trois exemples qui concernent les oiseaux. J'aurais pu en trouver chez d'autres groupes d'animaux, mais restons dans notre champ de compétences. Au début des années 70, les rapaces étaient beaucoup raréfiés en France. En particulier les rapaces chasseurs d'oiseaux ou mangeurs de poissons. Pourquoi? Tous les rapaces étaient détruits par les chasseurs qui les prétendaient nuisibles, et le DDT était un insecticide largement utilisé dans le monde, malgré les dégâts qu'il faisait dans l'ensemble des écosystèmes. Comme l'avait décrit Rachel Carson dans son célèbre livre « Le printemps silencieux », en s'accumulant dans les chaînes alimentaires, il provoquait en particulier la stérilité des rapaces, dont faucon pèlerin. Partout dans le monde, cette espèce s'avançait vers une disparition programmée. Au début des années 70, on ne comptait plus que 150 à 200 couples en France. Deux campagnes menées par les scientifiques et les associations naturalistes, dont la LPO, finirent par obtenir l'interdiction du DDT en 1971, ainsi que la protection des rapaces en 1976. L'effet ne s'est pas fait attendre. En 15 années sans DDT et 10 ans sans chasse, les effectifs de faucons pèlerins étaient revenus autour de 600 couples et ont continué à augmenter depuis. C'était une des premières preuves que, si face à un problème, on en connaît la cause, si on connaît les moyens d'y remédier et si on a la volonté de les appliquer, eh bien, ça marche. C'est cette idée qu'il faut rabâcher. Quand on veut, on peut. Un autre exemple. En 2008, la ville de Paris a décidé d'instaurer le zéro phyto, c'est-à-dire plus d'insecticides ni d'herbicides, avant que cette mesure soit devenue obligatoire dans toutes les villes en 2019. Elle développait en même temps la gestion différenciée de ces parcs, qui consiste à déterminer des zones où on laisse pousser la flore sauvage. Il se trouve qu'à cette même époque, le CORIF, le Centre ornithologique d'Île-de-France, venait de réaliser le premier atlas des oiseaux nicheurs de Paris. 10 ans après, la LPO Île-de-France a publié un second atlas avec la même méthode. Les 3/4 des espèces vivant dans les parcs parisiens avaient vu leurs effectifs augmenter, parfois très nettement. Par exemple, le nombre de rouges-gorges a doublé, ainsi que la surface qu'il occupait dans Paris. Une étude avait entre-temps montré une augmentation des insectes dans les parcs. Là aussi, on connaît la cause du problème, les produits phytosanitaires, on sait comment le supprimer, et dans ce cas, ce n'était pas simple, et on a eu la volonté politique d'appliquer ces mesures, malgré les réticences que cela a soulevées. Et ça a marché. Dernier exemple visant cette fois l'impact de la chasse sur une espèce en mauvais état au niveau européen, la tourterelle des bois. Il n'est pas question ici de dire que la cause principale de la disparition massive de cette espèce est la chasse. C'est une espèce de milieu agricole varié, idéalement un bocage avec des haies et des îlots boisés. Ce type de milieu disparaît devant l'extension de l'agriculture intensive qui transforme les paysages en vastes espaces vides. Mais la chasse d'une espèce en mauvais état de santé peut suffire à transformer un déclin en effondrement. Il a donc été décidé au niveau européen de suspendre la chasse à la tourterelle jusqu'à ce que les effectifs se soient redressés. Ici aussi, il n'a pas fallu attendre longtemps pour en constater les effets. En 4 ans sans chasse à la tourterelle, les effectifs de la voie occidentale de migration de cette espèce se sont redressés de 40%. Comme quoi la chasse a quand même une importance cruciale. Là aussi, l'efficacité de la méthode était démontrée. Malheureusement, il a été considéré que les effectifs avaient suffisamment augmenté pour réautoriser partiellement la chasse. Dans ces trois exemples, et je pourrais y ajouter celui des conséquences heureuses pour les oiseaux, de l'interdiction d'un des néonicotinoïdes les plus dangereux, l'imidacloprid, on retrouve la prise en compte des résultats scientifiques pour déterminer la cause d'un problème et la manière d'y remédier. Si en plus il y a la volonté politique d'appliquer ces remèdes, les effets positifs ne se font pas attendre. C'est cet esprit de respect de la science qui va de pair avec celui du droit qui anime la LPO pour proposer des solutions pratiques aux problèmes que rencontre la biodiversité dans notre région. Nous ne prétendons évidemment pas apporter toutes les solutions à tous les problèmes, mais nous avons la volonté de proposer, avec les autres associations naturalistes, notre contribution à leur résolution.
Et comme souvent, nous clôturons maintenant ce « Attire d'aile » par l'espèce du mois. Après nous avoir parlé de la mésange charbonnière et de la mésange bleue, Frédéric Mahler nous parle ce mois-ci d'une espèce cosmopolite, l'oiseau fusée.
Puisque je l'ai pris en exemple juste avant, intéressons-nous de plus près à cette espèce mythique, l'oiseau fusée, le dieu Horus, l'oiseau des rois, le faucon pèlerin. Pourtant, ce n'est pas le plus grand des rapaces, on ne le voit en général que de loin. Son plumage est plutôt sobre, manteau gris ardoise, moustache plus ou moins fournie, et dessous clair moucheté de noir. A priori, pas grand-chose pour lui accorder une telle importance. Mais c'est quand il chasse qu'on comprend sa réputation. Après une longue attente passée à scruter le paysage depuis un piton rocheux ou une branche d'arbre mort, le voilà qui décolle. Il a repéré, parfois à plus d'un kilomètre, un oiseau, peut-être un étourneau, une mouette ou un pigeon, qui traverse tranquillement son territoire. Le faucon monte en cerclant pour se retrouver au-dessus et en arrière de l'imprudent. Et brusquement, une accélération foudroyante en quelques battements d'ailes, puis il les referme pour n'être plus qu'un projectile pouvant dépasser les 300 km/h en piqué. Sa silhouette à l'aérodynamisme parfait, ailes repliées et tête rentrée dans les épaules, évoque le profil des avions furtifs dessinés à grands coups de soufflerie et d'ordinateur. En général, la violence du choc suffit à tuer sa proie, qui l'emporte vers un de ses perchoirs favoris pour la déplumer et la manger tranquillement, ou vers un lieu de stockage où il pourra la retrouver quelques jours après. Un cas particulièrement spectaculaire a pu être constaté grâce à l'enregistreur porté par la proie. Un petit échassier, un pluvier argenté, de retour de migration, arrivait dans le nord de l'Europe quand il a été repéré par un faucon pèlerin qui est monté à sa hauteur, puis l'a poursuivi plusieurs minutes avant de le capturer. Banal, direz-vous ? Non, car le tout se passait à 3000 mètres d'altitude. On ne sait pas trop ce qui est le plus extraordinaire dans cette histoire, l'altitude à laquelle volait le migrateur, le fait que le pèlerin l'ait capturé aussi haut, ou le hasard extraordinaire qui a permis de connaître cette histoire. Le milieu de vie typique du faucon pèlerin comporte une falaise où il va pouvoir installer son nid, ou plutôt ses œufs, car il ne construit pas de nid, il se contente de gratter le sol d'une vire rocheuse abritée, avant d'y pondre. Cela peut être en montagne, en vallée fluviale, comme le long de la Seine en aval de Paris, ou en bord de mer, comme en Normandie. Mais exceptionnellement, cela peut aussi se faire au sol, comme dans la toundra arctique. En effet, l'espèce a une grande répartition mondiale. On la trouve sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. On dit qu'elle est cosmopolite. Comme je l'ai raconté précédemment, cette espèce a failli disparaître du fait des pesticides et de la chasse. Elle s'est nettement rétablie à la fin du XXe siècle et a réoccupé la plupart de ses anciens fiefs. Il semble même qu'elle a manqué de sites naturels pour accueillir tous les couples potentiels. Elle s'est donc adaptée à des semblants de falaises qu'elle a découverts en ville avec les divers gratte-ciels et édifices religieux ou industriels. Les premiers cas de nidification urbaine en France ont été découverts dans les années 90 à Altkirch en Alsace et à Albi dans le Tarn. En région parisienne, le premier couple urbain s'est installé à Ivry-sur-Seine en 2010 et à Paris en 2012. Actuellement, ce sont pas moins de 8 couples qui nichent dans le Grand Paris. La ville procure en effet une grande variété de proies aux pèlerins, principalement les pigeons, les étourneaux, en hiver les mouettes et maintenant parfois les perruches. Certains ont même appris à utiliser les éclairages des monuments pour capturer les migrateurs nocturnes qui traversent le ciel de la ville. Bécasses, poules d'eau, grèbes, etc. Il arrive même que le passage d'une espèce rare au-dessus d'une ville ne soit connu des ornithologues que grâce au reste d'un repas de faucon pèlerin. Le pèlerin niche assez tôt dans l'année, surtout en ville. Les premiers accouplements ont lieu en janvier et la ponte en général 4 œufs en février-mars. Les jeunes s'envolent en mai après 30 jours de couvaison et 6 semaines d'élevage au nid. C'est un moment délicat car quand on est né en haut d'une cheminée de plus de 100 mètres de haut, il ne faut pas se rater au décollage. Ou alors, il faut prier pour qu'un passionné du groupe Rapace de la LPO Île-de-France assiste à la scène et récupère le malheureux pour le remettre en place s'il n'est pas blessé ou l'apporter à Maison Alfort, au centre de soins qui saura s'en occuper. Le spectacle époustouflant d'une chasse de pèlerins vaut bien qu'on aide un peu cette espèce qui est passée si près de la disparition à cause de l'homme. À la prochaine et d'ici là, ouvrez vos yeux et vos oreilles.